Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'Autour du Feu, votre podcast hebdomadaire analysant chaque épisode de la saison 20 de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Je suis de retour après 2 semaines d'absence, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué et sans plus attendre, on va faire la présentation de nos invités avec tout d'abord mon complice du début, il m'a remplacé pour ces 2 derniers épisodes, je vous demande d'accueillir Damien. Salut Damien!
Salut Pancaster, ça m'embête de laisser le poste un petit peu, je t'avouerai, j'ai plus goût au pouvoir.
Je comprends, je peux comprendre. Un nouvel intervenant, je vous demande d'accueillir Losc Alexis.
Oui, bonjour à tous.
Et avec nous, 2 anciens intervenants. Le premier est intervenu durant l'épisode 2, vous vous en souvenez peut-être. Il fait chaque semaine des analyses d'épisodes via Topito avec tous ses gifs qu'on peut voir sur Twitter notamment. Je vous demande d'accueillir Freeze. Salut Freeze.
Coucou.
Et avec nous également, il est intervenant de l'épisode 4. Je vous demande d'accueillir Massalia. Salut Massalia.
Bonjour.
On va discuter peut-être de l'épisode le plus important de la saison. L'épisode que nous attendions tous, la réunification. Et il y a énormément de choses à dire avec l'un des premiers événements qui nous a secoué, les ambassadeurs.
Si je peux dire un truc, c'est vrai que les épisodes de réunification, je crois, dans chaque saison, quel que soit le pays, c'est toujours un épisode où tout part dans tous les sens et c'est en général un des épisodes, si ce n'est l'épisode le plus excitant de chaque saison. Donc là, pour le coup, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
On rentre dans le vif du sujet et nous y sommes rentrés. On va pas se mentir, mais la communauté d'Autour du Feu a été endeuillée par l'élimination d'un de nos chouchous, d'un de nos favoris, de l'un de nos personnages préférés. On va en parler maintenant. D'abord, on va analyser un petit peu déjà le fait que ce soit les premiers ambassadeurs à 3. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce twist? Qui veut commencer à parler?
Alors, je ne sais pas si c'est la première fois à 3, il me semble que oui.
Oui.
Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant par rapport aux ambassadeurs en duo avec un de chaque équipe. J'ai trouvé ça plus dynamique. Alors, je ne sais pas si c'est lié au candidat ou au montage ou au fait qu'ils soient 3. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'échanges, plus d'interactions et que du coup, c'était plus agréable à suivre. Sur certaines autres éditions, on était plus sur une discussion un peu bloquée, parfois jusqu'au bout, parfois pas, mais où on se faisait quand même doucement chier. Et là, il y avait quand même des échanges, des arguments, bons ou mauvais, mais des arguments quand même. Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable à suivre, surtout qu'effectivement, les candidats avaient quand même chacun une position bien définie, qu'on peut critiquer et qu'on va pas manquer de critiquer d'ailleurs. Mais en tout cas, pour l'événement en lui-même, j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien foutu.
C'est plus ou moins mon ressenti aussi, le fait que les chefs assument leur statut en étant un peu les représentants de leur équipe. Je trouvais ça également tout à fait cohérent, ça allait avec le thème, donc là-dessus, ALP a très bien géré.
C'est au niveau des rapports de force qui était très intéressant, c'est-à-dire que Alexandre a eu vraiment la bonne idée de se dire on est 3, donc de toute manière moi je vais à la boule parce que c'est mon seul truc, et en faisant ça vraiment il force un petit peu les 2 autres à prendre position. Et Béatrice, pour le coup, a très très bien géré la chose, parce que voilà, elle disait moi de mon côté, je ferai pas un des miens. Et c'est surtout Maxime qui s'est senti acculé et qui lui vraiment a passé son temps un petit peu à chouiner en disant oui, mais Alexandre, on peut même pas discuter. Et résultat, bah du coup, il trahit, enfin il trahit. Il propose le nom de Frédéric, ce qui est assez logique, mais là, vraiment, il a perdu ce rapport de force, je dirais peut-être aussi un peu par orgueil, parce qu'il a une attitude très très orgueilleuse sur laquelle on manquera pas de revenir. Et voilà, pour moi, le grand perdant de ces ambassadeurs, c'est Maxime, clairement, qui a pas su gérer ce rapport de force.
Et Frédéric, un peu.
Oui, aussi.
Bah, Frédéric, forcément, de fait. On voit quand même que nos téléspectateurs sont pas du tout d'accord. Felouz qui pense que Fred ne servait à rien, même s'il trouve qu'il est plus méritant que Claude, par exemple. Griffiths qui nous dit que même si elle aimait bien Frédéric, il ne servait pas à grand chose. Scatiadioc qui nous dit que Frédéric n'était pas méritant du tout et qu'il était moins méritant de tous les candidats.
Ouais, après, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a le côté personnage et le côté candidat.
Ouais.
Le côté personnage était vraiment super sympa, il va nous manquer. Effectivement, le côté candidat, je trouve qu'on en fait beaucoup pour pas grand chose. Il a tenté un move en début d'édition qui s'est planté lamentablement, on peut le dire. Et il
Il
a
a
pas
eu un
fait grand chose
conseil.
depuis, je suis assez d'accord quand même.
Il a eu un seul conseil aussi.
C'est vrai.
Ouais, mais est-ce qu'il serait sûrement sorti encore une fois, tellement le groupe de 4 était intouchable?
Personnellement, je pense qu'il attendait la réunification pour flip direct avec
Ouais.
Signe. Oui, mais c'est pour ça que
Donc,
et c'est Valentin qui le dit dans le chat, c'est que Maxime a peut-être bien fait de sortir Fred, mais le truc c'est qu'il a mal géré l'explication et la situation. Et on en revient à ce que disait Damien, c'est qu'il a proposé Fred en étant totalement acculé, et derrière il n'a pas su ni totalement assumer, ni vraiment prendre position et renforcer sa vraie alliance pour aller plus loin, tout
Ah oui,
simplement.
tout le problème est là. C'est pour ça que le terme rapport de force est bien trouvé, parce que le choix de Frédéric est le bon. Que ce soit pour Maxime et pour les autres, je pense que c'est clairement le candidat qu'il fallait sortir, parce que c'est peut-être le plus insaisissable et le plus dangereux, même s'il n'était pas forcément très important. Mais par contre, effectivement, c'est la justification de Maxime qui est complètement nulle. S'il avait justifié, voire amené de lui-même, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Mais là, tous les arguments qui ont été donnés étaient vraiment pas très bons. Et du coup, effectivement, il se met en danger par rapport à ce choix-là. Enfin, c'est même pas un choix, c'est ça là, qui est terrible. C'est-à-dire qu'il s'est complètement laissé berner et ça va être dur de revenir à une place de chef, quand bien même il l'est plus vraiment.
Exactement, bah, c'est Gargo qui le dit, par exemple sur le chat, qui trouvait l'attitude de Maxime déplacée quand il a dit qu'il a éliminé Frédéric parce que c'était le plus gros stratège de la saison, alors que Maxime a été bien plus stratège que Fred. Tout au long du jeu. Lorsqu'Alexis, peut-être un commentaire.
Moi, j'ai trouvé que lors des ambassadeurs, Maxime s'est complètement fait berner par Béatrice, par Alexandre. Alexandre a bien joué le coup. Béatrice, elle a dit une phrase qui l'a fait craquer, quoi. Elle a dit à un moment, oui, alors moi, Maxime, si j'étais toi, j'irais pas à la boule. C'est cette phrase qui a fait que Maxime, après, a dit, bah, on va éliminer Frédéric.
Honnêtement, je sais pas, parce que je pense que les ambassadeurs, ça dure vraiment longtemps, en fait, qu'on nous montre un tout petit bout. Ça se trouve, il a quand même essayé pendant 3 heures de parler, et au final, il se rend compte qu'il veut pas sortir, et il met le nom de Fred, hein. C'est une question de montage aussi. On nous donne l'impression qu'il veut sortir Fred directement, mais en fait, c'est juste qu'on voit qu'il est pas sûr de lui. Et peut-être que plus tard, avec leur montage, en fait, ils donnent le nom de Fred au final, mais ils discutent pendant 3 heures, je sais pas.
Moi, je pense qu'il y pensait déjà à Frédéric et que le seul truc, c'est qu'il l'a vraiment très mal amené et que le fait que ça vienne de Béa le met lui en position de faiblesse.
Exactement.
Et c'est là où il est perdant, quoi.
Oui, exactement. Bah, c'est ce que dit, par exemple, Griffiths sur le chat, en disant que Maxime partait déjà pour le virer de base et qu'il en avait envie à fond. C'est juste qu'il s'est très mal comporté lors des ambassadeurs. Faut pas oublier que les ambassadeurs, c'est aussi une part où il faut jouer son jeu, où il faut avoir du gameplay vraiment solide, que ce soit socialement, stratégiquement. Et si vous montrez des signes de faiblesse et que vous éliminez quelqu'un, comme on dit, de dernier recours, ça montre juste l'envie de pas assumer d'aller au boule noir. Et ça peut avoir une impression de lâcheté. Et Maxime peut vraiment payer très cher ce nouveau statut qu'il a et cette cible qu'il a maintenant aujourd'hui. Alors que s'il avait dit clairement les choses en mode... Frédéric, je n'en peux plus, machin. Je pense qu'il est irrationnel, il ira pas de mon côté. On l'élimine. Non seulement Alexandre et Béatrice n'auraient pas eu de sang sur les mains et auraient dit OK, on élimine Frédéric, mais en plus Maxime n'aurait pas trop payé cette élimination là et il aurait pu clairement mieux avoir une meilleure image et avoir une cible beaucoup moins grosse, je pense. Et c'est avec ma théorie que je répète des semaines et des semaines et des semaines, c'est que je pense que la personne qui se met toujours en avant aux ambassadeurs en paye le prix fort. Un ou deux épisodes après, et c'est quelque chose qui est souvent revenu. Je pense à Romain, je pense à Sandro, je pense à, évidemment, Cédric.
Là où c'est très bien joué de la part de Béatrice, c'est que c'est quand même elle qui propose le nom de Frédéric, mais qu'au final, tout le monde en veut à Maxime, qui ne fait que suivre pour un choix plutôt logique en plus. Hein. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. Mais effectivement, la cible est clairement dans son dos maintenant.
Ah, bah, complètement. Béatrice, là-dessus, d'ailleurs, qui nous a tous assez stupéfaits, parce qu'elle a très bien vendu son coup, elle a très bien réussi. Défensivement, elle a eu la bonne stratégie et ça, c'était vraiment plaisant à voir. C'est pour ça que j'aime bien aussi les ambassadeurs. C'est là où on peut voir aussi comment les joueurs arrivent à s'en sortir quand ils sont sur la défense à un moment critique. Parce que les ambassadeurs, c'est quand même un moment critique. C'est juste avant la réunification. T'as un très gros poids sur les épaules. Et pour moi, Béatrice en est vraiment très bien sortie parce que ça aurait pu changer de jeu si un jaune était parti à la place d'un bleu, quoi.
Peut-être un Nicolas, mais...
Oui, c'est celui qui était le plus en danger aussi. Je pense pas que Béatrice soit allée jusqu'à la boule noire, moi, parce qu'elle a trop envie de jouer. Donc, c'était un risque à prendre, mais oui, Nicolas était clairement une cible aussi. Ouais.
Par contre, j'ai lu une interview très intéressante d'Alexandre qui dit qu'il trouve qu'il a mal joué a posteriori au regard de son élimination, qui dit qu'il aurait dû forcer une boule noire pour faire sortir un des leaders des autres équipes et essayer de peut-être de changer le rapport de force après la merge. Enfin, après la réunification. Je trouve ça intéressant comme idée. En vrai, peut-être qu'il aurait pu tenter ça.
On voit bien que Béatrice, elle voulait pas la boule noire. Elle voulait pas y aller. Hein.
Oui, mais Alexandre, il peut la forcer. Il peut dire, peu importe, on va la boule noire.
Si il refuse le choix, tout le monde est obligé de le suivre. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu être super intéressant.
En plus, surtout qu'Alexandre n'avait rien à perdre. Je veux dire, les mecs sont trois. Ils savent très bien qu'ils ont quasiment aucune chance de gagner une fois la réunification faite. Autant tenter le tout pour le tout.
Après, c'est facile à dire avec le recul, mais quand t'es sur place et qu'on t'offre la garantie de continuer, tu te dis bon bah j'ai quand même plus intérêt peut-être à aller essayer de gratter quelques voix par-ci par-là,
bien sûr,
plutôt que de risquer toute son aventure sur une boule noire. Mais effectivement, ça aurait pu être grandiose,
ça aurait pu payer. Ça aurait pu payer surtout, et je pense que après c'est aussi le kit tout double, quoi. Si ça passe, tant mieux, tu passes pour un très bon joueur, quelqu'un qui aura pris des risques et qui en plus aura sauvé son équipe et qui passe un peu pour le héros en risquant la boule noire. Et derrière, t'as peut-être le moyen de casser complètement les hiérarchies et d'aller au bout, juste grâce à ça. Donc ça aurait pu vraiment être un coup parfait. Bon, je pense que j'aurais fait comme lui et prendre n'importe qui en premier pour être sûr. Après, voilà, malheureusement, ça n'a pas payé pour Alexandre.
Et c'est là justement, c'est que en fait, je pense que Maxime il n'a pas apprécié le fait que ce soit pas lui qui prenne en main un petit peu les destinées des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'avec un Alexandre qui bloque complètement la conversation, il s'est retrouvé un petit peu acculé et au lieu de s'adapter un petit peu et d'essayer de proposer, enfin de composer avec cette donne-là, il a préféré râler sur le fait que justement il pouvait pas discuter un petit peu en toute latitude, même avec les rouges. Du coup, ça, je pense que Béatrice s'est aussi engouffrée dans la brèche, mais de manière très intelligente. D'ailleurs, je trouve qu'elle a une très bonne intelligence émotionnelle. Elle arrive très très bien à cerner justement les rapports de force dont on parlait. Et c'est, enfin, vous ajoutez Alexandre plus Béatrice, bah du coup le Maxime s'est retrouvé complètement acculé.
Ouais, Maxime a été pris de court, comme dit Griffith sur le chat. Gargo qui nous rappelle un autre exemple d'ambassadeur avec Romain qui était allé jusqu'à la boule pour que Cassandre sorte avec ses deux colliers. Comme voilà, un coup de poker qui a été gagnant sur le moment pour Romain, mais qui s'est fait sortir juste après. Le chat qui parle un peu du comportement de Maxime en disant que qu'il n'est pas foutu de comprendre qu'il pourrait s'allier avec les rouges, alors s'adapter à une stratégie, non, il
Ouais, alors au vu de ce qu'il a dit pendant les ambassadeurs, moi j'ai du mal à comprendre s'il avait une stratégie. Je pense que non, parce qu'il balance un peu tous les noms possibles et imaginables dans l'espoir que quelqu'un soit intéressé pour l'éliminer. Il parle de Maud, on sait pas pourquoi. Il parle de, enfin voilà, il cite à peu près tout le monde. Donc à mon avis, là non plus, il avait aucune stratégie. Il y allait complètement voilà, sans penser à rien, comme on l'a vu par la suite de l'épisode, ou mal penser, ce qui est peut-être encore pire. Mais je suis vraiment pas convaincu qu'il avait réfléchi à son affaire, le jeune homme.
Mais rigide, ça lui va bien.
Il est allé au casse-pipe, ouais, c'est ça. Et puis après, il s'est fait berner par Béatrice. Ouais.
En tout cas, ce qui a été fait. Nous avons donc perdu Frédéric, qui termine 15e, mais premier membre du jury. Et ça, au moins, c'est une petite victoire. On aura l'occasion de le revoir encore un petit peu. Et après, on a eu une nouvelle dynamique qui s'est créée, puisque les trois équipes sont réunies. Nous en avons plus qu'une.
Un tout petit mot, si c'est possible, sur le départ de Frédéric. Moi, j'ai beaucoup apprécié son message de fin, en expliquant que oui, il était stratège, qu'il l'assumait et que c'était pas un gros mot, que c'était juste voir un petit peu plus loin et d'essayer de profiter de son expérience différemment. J'ai trouvé ça vraiment chouette qu'il puisse l'expliquer aux autres. Si jamais ça peut donner des idées à quelques candidats de cette saison ou des prochaines, ça serait pas mal. Donc voilà, il part avec les honneurs pour moi. Même si c'est pas un énorme candidat cette saison, mais il a eu au moins ce mérite-là.
Exactement.
Surtout que Fred annonce, enfin, il dit ensuite, enfin, je l'ai vu en interview, qu'il voulait, à un moment, il sort, il pense déjà qu'il va essayer de tourner le jury final dans le sens qu'il veut, donc.
Ah, c'est pas bête
surtout
du tout
pour les
ça.
membres du jury. Les candidats, quand ils vont être éliminés un par un, ils seront un peu aigris, un peu salés, et lui va pouvoir les manœuvrer comme il voudra. Et si jamais il a envie de faire en sorte que Maxime perde, il peut le faire très très facilement. Du coup, une tribu réunifiée de 14, 3 anciens rouges, 6 anciens jaunes, 5 anciens bleus, qui sont devenus 14 réunifiés, hein, puisqu'il n'y a pas de couleur propre à eux. D'ailleurs, parenthèse, est-ce que vous aimeriez, vous, que la tribu réunifiée ait une couleur de tribu avec des foulards de cette couleur-là pour qu'on reconnaisse que chaque personne fasse partie de cette tribu-là et n'appartienne plus à son ancienne tribu?
Ouais, ça m'a surpris d'ailleurs de voir Mohamed au conseil avec son foulard bleu, etc. Dans les anciennes éditions, j'ai pas l'impression qu'ils gardent leurs anciens fanions. Et effectivement, je trouve que parler de tribu réunifiée, même si elle ne l'est pas, c'est une chose, mais au moins à s'harmoniser sur les couleurs, tout simplement, ça serait pas mal.
Ça change pas grand-chose pour moi, je trouve.
Non, mais au moins ne plus avoir les foulards rouges, jaunes et bleus, parce qu'on passe d'une tribu réunifiée, donc on va dire officiellement blanche, parce qu'en général c'est la couleur qu'ils associent à la tribu réunifiée, et on a encore des foulards de couleurs d'anciennes équipes, donc ça montre aussi peut-être une certaine appartenance à l'équipe d'avant et à l'envie peut-être de ne pas changer. Alors, c'est peut-être moins le cas dans une saison à trois équipes, où là il y aura forcément des lignes qui vont bouger, mais dans une saison à deux équipes, on voit clairement qu'il y a deux camps qui vont tous s'opposer, que le camp minoritaire va rien faire pour réussir à casser un peu le groupe majoritaire, parce que des personnes du groupe majoritaire vont rester loyaux au groupe majoritaire. On peut le voir avec quand on avait encore les rouges contre les jaunes, où tu avais genre la petite équipe jaune qui se faisait bolosser par la grosse équipe rouge qui allait jusqu'au bout, et les premiers de l'équipe rouge qui dégageaient regrettaient après de ne pas avoir bougé. Et du coup, ouais, moi ça me dérange un peu. Je pense qu'avoir une nouvelle couleur permettrait de vraiment montrer la nouvelle équipe réunifiée avec un nom pour montrer que c'est encore une équipe, mais qu'il n'y a plus qu'une seule équipe avec les aventuriers éliminés à chaque fois. sur le chat.
Ah.
Paul qui nous dit que c'est pas un jeu de mérite, c'est un jeu de stratégie. Que Scataviok, lui, n'est pas d'accord. Il pense qu'il y a une question de mérite.
Bah, c'est compliqué. Hein.
C'est parce que aussi, si on joue au mérite, si à chaque fois c'est le moins fort qui est éliminé, ça va devenir prévisible et chiant.
Après, alors, on apprécie quand même toujours tous de voir quelqu'un qui fait quelque chose aller au bout. Personnellement, moi, si je vois par exemple quelqu'un, un aventurier comme Yacine, Théoura, qui se donne à fond, que ce soit dans les épreuves, qui essaye de faire quelque chose sur le camp, et qui se fait éliminer par des personnes qui sont insupportables, moi, je ne vais pas l'apprécier, par exemple. Et si je vois quelqu'un qui ne fait rien du tout, du tout, du tout, que ce soit sur tous les plans du jeu, que ce soit épreuve, sociale, stratégie, même un peu survie, parce que c'est un peu la vie du camp, ça va m'énerver, parce que le but de Koh-Lanta, c'est aussi de se tester, soit sur toutes les tous les aspects du jeu, en fait. C'est de se tester, et si tu fais rien, et que tu laisses les autres te guider, te porter, tu laisses les autres te choisir pour les épreuves, sans avoir un but derrière, sans réfléchir à aux raisons pourquoi tu fais ça, et ben moi ça m'énerve un petit peu. Et pour ces personnes-là, je peux comprendre qu'on les estime comme étant non méritants. Mais le vrai problème du mérite...
Je trouve qu'on en fait beaucoup autour de ces deux termes-là, mais c'est juste de la syntaxe. Hein, parce qu'en vrai, l'un et l'autre se mélangent très bien.
Bah oui.
Il y a des stratèges qui sont tout à fait méritants, et des gens qui bossent et qui sont quand même un peu stratèges, etc. Enfin, tout n'est pas aussi noir et blanc. De parler de mérite, je trouve ça presque aussi bête que de parler de stratégie, c'est-à-dire que tout est stratégique dans ce jeu-là. Et bon, le mérite, juste parce qu'on fait du feu, etc., effectivement, c'est très discutable. Je vois pas bien ce que ça peut apporter à l'aventure. Ça apporte aux aventuriers, c'est différent. Mais après, si on parle vraiment en termes de jeu, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est, pour moi, le candidat le plus stratège et le plus méritant qui devrait, dans un monde parfait, l'emporter, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, mais oui, c'est très bien. Je pense pas qu'il faille dissocier à ce point-là les deux points de vue, entre guillemets.
Pour moi, la stratégie fait partie de ce qu'on peut appeler du mérite en soi.
Bien sûr.
Ça juste dépend juste de comment tu vois le jeu. Par exemple, sur Survivor, qui est la version américaine, à la fin, au final Tribal Council, c'est souvent le plus méritant stratégiquement qui gagne, en fait. Du coup, c'est une forme de mérite aussi. Tu peux aussi décider que le plus méritant, c'est celui qui fait rien. C'est juste la vision des candidats qui fait varier la vision que les gens ont sur le jeu.
Et généralement, quand on parle de mérite, c'est un peu une vision assez hypocrite de ce qu'on a. Ça veut dire que c'est la personne qui va moins forcer les choses, qui va moins prendre la dynamique du jeu pour soi et qui va se laisser guider par le courant et qui va pas avoir du sang sur les mains, qui prendra pas de décision, mais qui, parce qu'il est bon dans les épreuves, va avoir cette aura-là vis-à-vis des spectateurs, quand ce n'est pas juste le mec qui est gentil devant les caméras. Je pense à Alban, je pense à Freddy de KL16, même si Freddy, je l'aime bien. Ces personnes-là qui avaient une bonne image, peut-être en jouaient aussi, et qui du coup devenaient aussi des préférés du casting.
Et puis à l'inverse, c'est très hypocrite aussi de parler de stratège, par exemple pour Frédéric, qui a juste émis quelques hypothèses, mais qui n'est pas vraiment...
Oui.
C'est pas vraiment Napoléon non plus, quoi. Et enfin, je trouve ça un peu dommage de réduire des candidats au simple fait qu'ils aient envie de mettre des coups en place.
Bah, c'est ça.
Mais effectivement, c'est très différent des mentalités.
Dire que Clémence, c'est qu'une suiveuse, comme je vois Cerse, non, faut pas exagérer.
On parle de stratégie, là. C'est-à-dire qu'elle savait ce qu'elle faisait et ça l'a amené au bout.
Exactement.
Et ça me fait penser à un autre candidat qui avait un peu cette même tactique-là. Même si généralement, il faut utiliser le terme tactique et non stratégie. Donc, c'est aussi pour ça que le terme de mérite est assez biaisé là-dessus.
Ouais, c'est
que, tactiquement, qu'avait fait Hugo dans Koh-Lanta 12, donc Malaisie, il me semble, avait été très bon. Il avait laissé, parce qu'il savait très bien que ça pétait entre tous les leaders, donc Ravière, Namadia, Brice, tout ça. Et Hugo savait parfaitement qu'il devait rester en arrière pour laisser Brice prendre les coups et lui continuer à faire son petit bonhomme de chemin tout en suivant les directives de Brice. Ça n'empêchait pas Hugo d'être tactique, mais ça, socialement, ça l'a rapproché aussi du jury qui avait en Brice quelqu'un d'hypocrite. Et Hugo a récupéré le magot en gagnant cette saison. Et Gérard en KL11 aussi. Et c'est très bien joué.
Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle avoir un être under the radar.
Leader. Passer un petit peu aux dynamiques de la tribu réunifiée. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu, les nouvelles interactions, les possibilités d'alliance? Quels seraient vos avis dessus?
Je pense que l'alliance bleu-jaune, mauvaise idée. Je pense qu'ils auraient dû se mettre avec les rouges pour éliminer les jaunes et puis après éliminer les rouges.
J'ai un désaccord avec sur ça et assez fort, c'est que le problème, c'est que si tu fais ça, les rouges, leur intérêt, c'est de voter deux fois avec toi et de changer ensuite de camp pour aller voir les jeunes et leur dire, ben écoute, maintenant, on peut sortir les bleus.
Ouais, alors je pense pas qu'il voit aussi loin. Hein. Quand on voit l'émission, je pense qu'effectivement c'est une très mauvaise idée de virer les rouges, moi aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui est en place. En tout cas, le montage ne nous le montre vraiment pas. On verra la semaine prochaine, voire les semaines suivantes, s'il y avait des choses un peu cachées. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'ils aillent très loin dans la projection. Et du coup, effectivement, on se pose la question quel est l'intérêt maintenant de virer les rouges, qui ne représentent pas un danger dans l'immédiat, et pas avant au moins quelques semaines. Oui, donc j'ai clairement du mal à comprendre, surtout qu'on nous montre quelques interactions avec Brice, qui a essayé un peu à droite à gauche, en très discrètement, d'aller voir un petit peu les avis des uns des autres. J'ai trouvé ça très confus. Je sais pas si c'est le montage ou si c'est juste qu'effectivement eux-mêmes étaient un peu paumés. J'ai pas eu l'impression que grand monde savait vraiment où il allait. Pourtant, le vote était très bien défini, très bien clair, ce qu'on n'a pas vu nous à l'écran. Donc il y a clairement des éléments qui nous échappent. Clairement, la stratégie initiée par Maxime de virer pour l'instant est difficilement compréhensible, ce qui ne veut pas dire qu'elle le sera, que c'est une mauvaise stratégie dans les semaines qui vont suivre. Mais en l'état, avec nous, ce qu'on a pu voir, c'était pas tout à fait compréhensible.
La vraie question, c'est est-ce que c'est pas aussi parce que c'est la première saison de Koh-Lanta où tout le monde veut faire de la stratégie et du coup ils savent pas où aller ?
Peut-être.
Possible. Ça se discute. Oui, en effet, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, ça c'est possible. Après, chaque stratégie a un intérêt pour quelqu'un et les jaunes ont intérêt au final aussi à virer les rouges parce que si jamais les rouges sont totalement exterminés, ce sera un rapport de force à 6 contre 5. Et les jaunes seront en parfaite position.
Du coup, je me dis qu'avec le recul, parce que j'ai bien ragé devant mon écran vendredi soir, peut-être que l'élimination d'Alexandre n'est pas un si mauvais move que ça. Parce que à 3, bon, ça restait quand même assez imprévisible. Là, à 2, c'est vrai qu'on peut peut-être davantage contrôler ce qu'ils peuvent faire. Et ensuite, voir avec Cindy, avec Angélique, avec Aurélien, par exemple, une alliance un petit peu d'underdogs. Et comme ça, pouvoir essayer de noyauter un petit peu les deux blocs de 5 et de 6, qui sont les bleus et les jaunes. Ils sont autour de deux chefs qui, eux, ont vraiment, c'est les chefs, leur garde rapprochée, et ils n'en démordent pas. Et ils ont tendance un petit peu à oublier qu'il y a aussi d'autres joueurs derrière qui peuvent s'organiser un peu dans leur dos pour essayer de casser tout ça. Et quand je vois l'édit de Maxime, qui a eu un édit extrêmement négatif sur cet épisode, je me dis que c'est pas impossible que dans les prochains épisodes, que sa tête tombe. Après, voilà, élimination d'Alexandre au final... assez logique, je veux dire, ça reste un vote pour l'instant de non-agression. C'est les dynamiques de la suite qui vont être très intéressantes, je pense.
Oui, surtout qu'on a vu que ça commençait à craqueler un peu chez les anciens bleus, chez les anciens jaunes. Donc effectivement, peut-être que c'était un vote un peu pour tempérer. Il va falloir que ça bouge rapidement parce qu'on a vu que Maxime était quand même très en confiance, même s'il n'a pas beaucoup de raisons de l'être, mais il ne le sait pas forcément. Mais effectivement, c'est intéressant de voir l'évolution et de voir si il va y avoir des alliances inter-équipes. Je l'espère vraiment pour la survie des deux rouges restants qui ne méritent vraiment pas de partir.
Mais c'est vrai que si on parle aussi de mérite, là, hein, finalement.
Oui, alors le terme est peut-être pas le bon, mais en tout cas, pour moi, ils ont plus leur place que certains candidats. C'est pour ça qu'ils méritent, je ne parle pas de mérite par rapport à leur travail sur le camp ou quoi que ce soit, mais en termes de candidats et de personnalité, d'investissement dans le jeu, pour moi, un Maud et un Cyril ont 10 fois plus leur place qu'un Steve, que d'autres, que presque 50% des joueurs restants.
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Quand on voit quelqu'un comme Claude, par exemple, Claude, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Même Sophie, c'est quand même pas ouf. Et ce serait dommage de perdre des personnages essentiels, de perdre des personnages sympathiques au profit de personnes totalement vides.
Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous, je préfère voir Cyril et Maud rester. Mais c'est... là, on parle de mérite, encore une fois.
Non, c'est pas une question de mérite, c'est juste avoir envie de voir des candidats rester parce que pour moi, ils sont plus intéressants que d'autres, tout simplement.
Oui, c'est pas le mérite dans le sens méritocratique. Il y a une hiérarchie et si jamais il y en a un qui part, ça y est, c'est la fin de la saison, on regarde plus. Non, c'est vraiment en mode, il y en a qui ont plus prouvé que d'autres, qui ont fait plus de travail que d'autres, d'autres qui sont laissés plus porter par le courant et donc, de fait, si on devait à chaque fois classer en fonction de qui a le plus de potentiel et avec lequel on aimerait voir aller le plus loin possible, ce serait Cyril et Maud. Mais ici, je trouve que le terme mérite est tout à fait justifié.
C'est peut-être pas innocent, d'ailleurs, que Cyril trouve un collier à quelques secondes de la réunification.
Robert.
On avait eu des doutes, ouais, Robert. On avait déjà eu des doutes sur certains autres colliers. Là aussi, celui-là, il est extrêmement bien placé. Donc, on va pas rentrer dans le complotisme, mais bon, c'est quand même un peu étonnant. Mais tant mieux pour lui.
Ceci dit, je suis content que ce soit lui qui l'ait. Donc,
ouais, tout à fait.
Oui, ils ont leur place, c'est... sportivement.
Et d'ailleurs, si on veut revenir un petit peu sur le montage, c'est vrai que Alexandre, ça faisait déjà 2-3 épisodes qu'il avait un montage négatif. Bon, il était chef et qu'il était présenté comme quelqu'un de parfois d'un peu tir au flanc, parfois d'être un peu autoritaire. Selon le montage, on va dire son élimination est plutôt logique. Maud et Cyril ont des montages qui sont beaucoup plus sympathiques. On les montre sur un jour très positif au final. Et donc, eux, oui, je pense qu'ils iront quand même beaucoup plus loin.
Oui, après là, c'est clairement le montage est très orienté, justement pour nous faire un peu apprécier ces deux rouges-là. Est-ce qu'ils savent que ces deux rouges-là vont aller plus loin et que du coup ils orientent un peu le montage comme ça ? C'est dur à dire pour l'instant et peu importe, mais on sait pas vraiment ce qui se passe. On l'a vu pour les votes, on n'a aucun regard là-dessus. Donc c'est intéressant de montrer ces deux-là sous un côté plus positif. Et je pense que ça peut être peut-être un bon indice pour la suite de leurs aventures à eux dans l'émission.
Oui, totalement. Bah, c'est ce que nous disait Valentin. Ça confirme ce qu'on pensait, que le montage n'est pas anodin et que si on nous fait aimer ou détester des candidats, c'est pas pour rien. Et
le but des gens chez ALP, c'est de proposer le meilleur divertissement possible. Et du coup, le montage, ça permet un petit peu de monter des arcs narratifs, de suivre une histoire, de faire la chute de tel candidat ou au contraire, l'apogée de tel candidat. Ce qu'on avait vu par exemple avec Victor, où là pour le coup on voit vraiment le début avec son arrogance, avec l'alliance et puis sa chute progressive, alors qu'au contraire on voit par exemple une Maud où qui se révèle vraiment petit à petit. C'est comme ça et c'est ça qui rend justement Koh-Lanta intéressant et ce qui permet aussi de pouvoir faire des petites prévisions, des petites prédictions sur la suite de l'aventure.
Oui, puis il y a toujours un peu les mêmes clichés, c'est-à-dire qu'il faut un méchant dans chaque épisode ou presque. Là, bon, le méchant était tout trouvé, c'est Maxime, même si je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il a le mauvais rôle, alors que, bon, foncièrement, son choix était bon. Mais là aussi, c'est un petit peu orienté, c'est rigolo de voir les mêmes mécaniques, mais avec des personnages différents. Peut-être que dans 3-4 émissions, ça sera Maud, la grande manipulatrice Vislard, on sait pas, mais ça, c'est toujours intéressant à suivre.
J'aimerais vous proposer un petit concours. L'élection du meilleur joueur de l'épisode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce principe, c'est un principe qui existe sur Inside Survivor, qui est un petit peu le site référence des fans de Survivor, donc la version américaine de Koh-Lanta, qui propose à chaque épisode d'élire le meilleur joueur, celui qui nous a le plus impressionné, celui qui a le mieux joué. Qui, selon vous, a le mieux joué durant cet épisode ? Qui veut donner son avis en premier ?
Bah, allez, moi j'en ai deux, enfin j'en ai, allez, je vais dire Béatrice quand même, ça me paraît évident. Parce que c'est clairement elle qui a mieux joué le coup aux ambassadeurs, en gardant toute son équipe, en éliminant un bleu, et en mettant l'autre chef dans la merde. Clairement, elle ne pouvait pas rêver mieux, je pense. Donc de ce point de vue-là, et tout en étant en plus très discrète, et sans se mettant en évidence ni en danger, donc je pense qu'elle a bien tiré son épingle du jeu. Et après, de mon point de vue, j'aurais un petit joker aussi pour Cindy. Alors c'est plus une surprise parce que clairement elle n'était pas forcément très à son avantage avant, en tout cas en termes de montage. Et là j'ai trouvé son discours et par rapport à l'élimination de Frédéric et par rapport à Maxime très intéressant. Et avec son collier en plus, ça peut être à suivre. Et j'espère qu'elle ira plus dans cette voie-là que suivre bêtement Maxime quelques épisodes. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très intéressante et j'ai un peu changé d'avis sur cet épisode-là.
Alors moi j'en ai deux. Déjà, je suis d'accord avec Béatrice sur ce côté. Franchement, elle a été super bonne aux ambassadeurs. Cindy, pourquoi pas, mais moi, ce serait plus Maud pour l'épreuve d'immunité. Elle a été incroyable de mental, incroyable de résistance à la douleur, et donc, on avait dit tout à l'heure. C'est une de mes candidates préférées, j'adore.
Sur le chat, ça se résume entre trois personnes, hein. Béatrice, Maud, Cindy, par exemple, Katavioc qui nous dit que c'est Béatrice son joueur préféré. Pour Rachel, c'est Béatrice également. Pour Cersei, c'est Cindy. Même si elle place Angélique.
Alors, petit aparté sur Maud, c'est que j'ai vu sur Big, le forum de Felouze, une stat très intéressante, c'est que Maud est la première femme de 50 ans et plus à avoir remporté une épreuve depuis 2001, et Michel.
Ah oui, c'est intéressant.
Ah ouais.
Maud est vraiment très très complète. Hein.
Non, pour ça, ouais, c'est vraiment de la souplesse. C'est pas juste vraiment de la force et de la résistance à la douleur. C'est aussi une grande intelligence dans l'utilisation des muscles sur cette épreuve. Et donc pour revenir à ce que proposait Plantcaster, donc sur le meilleur jeu de l'épisode, je vais pas dire différemment des autres. C'est-à-dire que Béatrice, pour sa gestion émotionnelle des ambassadeurs, elle a été parfaite. Et Cindy, très prometteuse justement, parce que elle se rend compte un petit peu des rapports de force au sein de son ancienne équipe bleue, et justement, on sent qu'elle n'hésitera pas à essayer de trouver un petit peu des chemins de traverse pour avancer de son côté sans forcément suivre les bleus ad vitam aeternam. Donc voilà, pour moi, c'est Béatrice et puis Cindy juste derrière.
Ça me surprendrait pas qu'elle regagne des épreuves. C'est surtout ça. Hein. Alors, pour moi, c'est pas une exception. Elle peut en gagner deux ou trois sur les missions. Et pour mon candidat préféré, ça serait ou Cindy, parce que je trouve qu'elle a très bien joué, surtout en restant ensuite quand même dans l'ombre derrière Maxime, et en votant comme les autres bleus, ou Cyril, parce que je trouve qu'il a un social énorme et que dès qu'il arrive sur le camp, bah, il s'entend bien avec tout le monde et il va passer comme ça. J'en suis sûr.
Cyril, il a une intelligence émotionnelle qui est très très bonne. Du coup, ça que une manière comme ça de se lier avec les gens, une manière aussi de paraître comme ça sympathique, mais pas. Il ne joue pas un jeu, c'est qu'il est vraiment lui-même et au niveau social, c'est un des meilleurs joueurs de cette saison, je pense.
Et il a réussi à sauver son collier, ce qui n'était pas gagné non plus. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, s'il avait eu des infos, s'il a réussi à savoir que Alexandre partirait, mais en tout cas, c'est un bon mouvement de sa part, que ça soit fait exprès ou pas.
Je suis assez d'accord, c'est vrai que moi aussi ça me place Cyril assez haut, et je vais le mettre au-dessus de Cindy, parce que Cindy certes s'est rendu compte pour l'instant de sa position dans la hiérarchie, mais n'a pas encore fait quelque chose. Mais je vais quand même placer devant Cyril Béatrice, qui elle a vraiment joué pour le coup aux ambassadeurs, en réussissant à dégager Frédéric, en protégeant son équipe, en virant en rouge, donc ce qui était dans son intérêt. Béatrice pour l'instant pour moi a fait du travail tout à fait correct et pour moi mérite amplement ce titre honorifique de meilleure joueuse de l'épisode.
Il y a Felouze sur le Discord qui dit que Cyril avait visiblement des infos, notamment grâce à son social, ce qui me fait dire que c'est encore mieux joué de sa part du coup et qui va être à suivre vraiment sur les prochaines semaines.
Est-ce que vous avez encore des commentaires à faire sur l'épisode ?
Non, bah, j'imagine qu'on devait dire la même chose sur l'épreuve, c'est justement le twist d'avoir une épreuve dans l'épreuve, voilà, qui est tirée de Survivor. Et ça, pour le coup, c'est un super, super truc, quoi. Même si c'est Mohamed qui l'a chopé le collier, alors que ça lui servait vraiment pas à grand chose. Mais, ça, pour le coup, ils font encore une fois vraiment un effort et c'est presque un changement de ligne éditoriale pour Koh-Lanta.
Mais ils changent vraiment de ligne éditoriale. La stratégie est plutôt mal vue sur la saison.
Hein. Mmh. Ah non, parce... Ouais, je suis d'accord. C'est un truc super intéressant. Après, ma crainte, entre guillemets, c'est que du coup, vu qu'ils vont avoir des bons retours, je pense qu'ils ont vu que ça avait marché avec les candidats. J'espère que ça va pas devenir ni systématique, ni mal foutu. Ce qui est le risque avec les nouveautés qui marchent dans Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'on tire sur la corde jusqu'au bout et ça devient complètement inintéressant. Donc j'espère que ça restera un petit peu aléatoire une fois de temps en temps, en fonction peut-être même des conseils, ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, ouais, sur le principe, c'est une nouveauté qui fait du bien parce qu'elle est justifiée, intéressante et elle peut changer quand même pas mal le jeu. Et du coup, c'est ce qu'on attend des changements, quoi.
Et c'est vrai, je pense peut-être que dans les futures épreuves, les futures semaines, ça va peut-être faire ça sur toutes les émissions, je pense peut-être. Je sais pas, ce serait pas mal.
Je pense pas qu'il y aura tout le temps un collier, peut-être qu'il y aura d'autres choses, enfin comme dans Survivor.
Un confort ou quelque chose.
Ouais, voilà. Oui, voilà, ouais.
Ouais, par exemple.
Deux épreuves en une, ouais, c'est pas mal, ouais.
Genre le gagnant du confort qui choisit 3-4 personnes pour venir déguster le confort avec lui, quoi.
Ouais, ils l'ont déjà, ça c'est déjà été fait. Non, mais par exemple, comme dans Survivor, le premier qui décide d'abandonner a droit à un hamburger ou une connerie, ça peut être intéressant aussi.
En effet.
Pour voir qui se sent en confiance suffisamment pour lâcher une épreuve. En termes de dynamique et de stratégie, là aussi, ça peut être super intéressant à voir.
Du coup, moi, je vais poser ma question. Est-ce qu'on est en train d'assister à la meilleure saison de Koh-Lanta depuis le début, sans compter le retour de Pascal ?
Ah, il y a Koh-Lanta 3 quand même, pour moi, qui surplombe le tout.
Il y a Raja Ampat.
Et Raja Ampat, évidemment.
Ouais, j'allais dire Raja Ampat. Non, pour moi, c'est pas du tout la meilleure saison. Mais il y a des choses intéressantes et les nouveautés peuvent amener quelque chose. Donc. C'est un petit peu tôt encore pour juger, mais...
Pour l'instant, ouais, je dirais aller, on va dire top 5, top 7 des meilleures saisons, mais guère plus.
Il faut qu'il y ait des moves, quoi. Pour l'instant, c'est très linéaire. Victor a amené vraiment quelque chose en début de saison. Après, c'est quand même sacrement retombé. Donc, à voir sur les prochains conseils, mais il va falloir vraiment que ça bouge pas mal pour que ça se mette au niveau des meilleures saisons, je pense.
Il y a quand même un bon casting, je trouve, cette saison à Koh-Lanta.
Clairement, le casting après, de cette année est l'un des meilleurs qu'on a eu depuis quelques temps. Ouais. Un casting très complet. On a des joueurs, on a des très bons en épreuves. On a vraiment un casting très complet.
Le casting est bon, les épreuves sont pas mal aussi. Ça, ouais. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse évolution là, depuis quelques années, je trouve. Ça fait moins kermesse de fin d'année au CM1. Et c'est quand même à saluer aussi, quoi. Ils ont fait des gros efforts là-dessus.
Et il y a Griffith qui dit sur le chat que niveau production de la part d'ALP, c'est leur meilleure saison. Parce que les épreuves sont plus rythmées, ils ont fait vraiment, vraiment un gros effort.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Ah ouais, c'est depuis le temps qu'on attendait des épreuves qui varient un peu, où il n'y ait pas que des candidats physiques. Ben là, on a quelque chose enfin où ça change un peu, il y a un peu de réflexion, c'est pas mal.
Bien, eh ben, on va pouvoir passer à notre jeu de cette saison, le Crescendo, qui s'est doté d'un générique. Damien, s'il te plaît.
Yeah.
Mon Dieu, ce générique.
Et c'est avec ce générique qu'on présente.
C'est la pire chose que j'ai entendue depuis très longtemps.
On mettra bien quelque chose de plus joli la prochaine fois, non?
Oh la vache.
Bah, ça monte crescendo, hein, c'est thématique. On va.
Bon. Calme.
On va présenter donc le jeu de la saison, le crescendo. Le principe est très simple, vous avez une série de 5 paris à faire, un pari par épisode. Pour chaque épisode, vous devez nous donner votre top 3. Ce top 3 correspond aux personnes pour lesquelles vous avez le plus, vous pensez qu'ils aient le plus de chances de les voir partir. Alors, Damien, je vais commencer par toi.
Mais du coup, non, là, je vais tenter le coup pour le prochain épisode. Je vais dire en premier Maxime, à cause de son edit de son montage. En deuxième, je dirais Nicolas, parce que lui, il va pas faire long feu non plus. Et en troisième, vraiment, et là, ça me soulèverait le cœur, mais bon, tant pis, Maud.
Alors, Freeze.
Moi, je vais dire Maxime en 1. Je vais dire Maxime en 1, parce que c'est peut-être un risque, mais c'est clairement ce qui semble le plus évident. Je vais dire Steve en 2. Ça, c'est plus le choix du cœur. Et je vais dire Brice en 3.
Nous avons alors Massalia.
1, Maxime. 2, Nicolas. 3, Béatrice.
Très bien. Du coup, il nous reste Losc Alexis.
Je vais mettre Maxime, qui semble être la logique avec les ambassadeurs. Franchement, il a été mauvais. En deuxième, je mettrai Nicolas, parce que ça fait longtemps qu'il doit partir, et à mon avis, il va partir bientôt. Et en troisième, je mettrai un nom que vous n'avez pas encore mis, c'est Chlo, qu'on voit pas du tout. Et à mon avis, elle pourrait partir bientôt aussi. Elle est pas, on la voit pas très tellement, et puis c'est aussi peut-être le choix du cœur.
Non.
Elle sera en finale, Chlo.
C'est pour ça que je l'ai mis en troisième. Alors c'est pour ça.
Chlo peut aussi être victime un petit peu du montage invisible que l'on donne à quelqu'un qui est victime d'un collier joué, par exemple. Hein. Ça peut arriver, ça.
Donc alors. Là, c'est pas bête, ça.
Ça peut également arriver, toi, pour ne pas avoir de ressenti à son départ, de se dire bah dégage, tant pis, tout c'est pas grave, j'aimais pas trop, voilà.
Je pense pas. Je pense que ça va venir et qu'elle va exploser. J'y crois encore un petit peu. J'y crois de moins en moins, mais j'y crois encore un petit peu.
Alors c'est à mon tour. Je vais parier en 1, Maxime. Parce qu'à mon avis, ça va être compliqué pour lui de, bah, tout simplement de rester en jeu. Je vais mettre en 2 Maud, parce que si jamais il garde la même stratégie, je pense que c'est plus elle qui sortirait. Et en 3ème, tu sais quoi, je vais faire comme Losc Alexis. Je vais mettre Chlo en 3ème. Eh ben, messieurs, est-ce que quelqu'un a un commentaire à...
Non, c'était un bon épisode, une bonne réunification, quelques nouveautés, bon, des stratégies plus ou moins douteuses, mais à surveiller. Donc, il y a eu vraiment pas mal de choses, pas mal d'éléments, et ça bouge un petit peu. Donc, ça va être super intéressant à suivre, et c'était peut-être le tournant là de la saison. Donc, très content, moi, perso, de cet épisode.
Ça, eh ben, écoutez, messieurs, je vous remercie, c'était très intense, il y a eu énormément de débats. C'était attendu vu que l'épisode de la
série. C'était très cool.
Merci à toi.
Donc, merci à toi, merci à tout le monde.
Voilà, donc Massalia, Losc Alexis, Freeze et Damien étaient avec nous aujourd'hui pour parler de cet épisode-là. La semaine prochaine, il y aura évidemment Damien qui sera de retour et 3 nouveaux intervenants. Je vous remercie tous, à tous les membres du chat, tous les
merci
intervenants, d'avoir participé, d'avoir débattu sur cet épisode de cette saison qui est pour l'instant sympathique de Koh-Lanta, la guerre des chefs. En espérant que ça continue ainsi. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h, toujours le dimanche. C'était Plancaster. Salut.
Salut.
Salut.